Bonjour à tous, c'est Adrien d'AFL Diversity. Bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Retrouvez ici chaque mois une personnalité inspirante qui fait bouger les choses dans son entreprise. Mon invité aujourd'hui est Frédéric Potier. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours ?
Alors, je m'appelle Frédéric Potier, je suis aujourd'hui délégué général à l'éthique et à la conformité au groupe RATP. Et auparavant, j'étais délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et ma formation, c'est une formation relativement classique, Sciences Po, l'ENA, parcours de haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, en territorial, en centrale, avec un peu de cabinet sur des questions d'outre-mer. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai été amené à m'occuper un petit peu de ces questions de diversité, d'inclusion à différentes époques de ma carrière.
Merci Frédéric. Alors, aujourd'hui, la RATP, après des cabinets ministériels, c'est un peu le grand écart. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce nouveau parcours?
Bah, d'abord, je suis allé à la RATP parce qu'on est venu me chercher, en fait. La vérité, c'est ça, c'est que j'ai été démarché par un cabinet de chasseurs de tête, ce qui est toujours bon pour l'ego, hein, quand on vient vous chercher et qu'on vous demande de rejoindre une boîte pour ça. Il se trouve que la RATP avait souhaité regrouper différentes fonctions, différentes missions, puisque moi, au sein de ma délégation, j'ai tout ce qui est conformité, loi Sapin, anticorruption, conflit d'intérêts. Et j'ai aussi tout le pôle harcèlement sexuel, agissement sexiste, et aussi tout ce qui est neutralité religieuse et laïcité. Donc, j'ai pas que la diversité et l'inclusion, j'ai vraiment un package global qui s'appelle l'éthique, mais qu'on pourrait aussi appeler citoyenneté ou respect des normes en entreprise. Et c'est cette belle mission qu'on m'a proposée, c'est pour ça que je l'ai acceptée. Hein. J'aurais pas rejoint cette boîte probablement sur d'autres types de fonctions. Voilà, je suis incapable d'être un grand financier, par exemple, je pense. Mais sur cette mission qui était vraiment finalement une conséquence assez logique de ce que je faisais avant, je m'étais dit que c'était plutôt bien de faire fructifier mon expérience de délégué interministériel et de pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis et puis d'essayer d'être utile pour une entreprise de 55 000 salariés qui est une entreprise avec beaucoup de diversité, avec un certain nombre de problématiques, on en reparlera, mais qui est vraiment résolue à faire des choses.
Alors, tu l'as dit, 55 000 salariés, vous êtes présent dans 13 pays, sur 4 continents. Comment finalement est-ce qu'on fait pour qu'un groupe aussi gigantesque que la RATP soit inclusif et permette à toutes les diversités de s'exprimer finalement?
Alors d'abord, c'est vrai que ce terme de diversité, on peut le questionner, mais faute de mieux, on va quand même l'utiliser. Et moi, je considère que le groupe RATP, il est effectivement très divers parce qu'il intervient à l'international, comme tu le dis, avec sa filiale RATP Dev. Mais c'est aussi un groupe qui est très divers, avec des gens qui viennent d'horizons très différents, à l'échelle même du bassin francilien. Et donc, on a coutume de dire qu'il n'y a pas une RATP, mais des RATP, avec des gens qui viennent plutôt de l'innovation, des ingénieurs, des fonctions de siège RH, de la maintenance mécanique très industrielle, mais aussi des fonctions que tous les Parisiens connaissent, hein, les conducteurs de bus, les conducteurs de métro, les agents de station. Et donc, on a des métiers qui attirent beaucoup de monde d'origines très diverses. Et donc, nous, notre enjeu, c'est à la fois promouvoir la diversité, c'est-à-dire faire en sorte que cette diversité, elle existe, et qu'elle existe à différents niveaux, parce que il faut pas qu'elle soit réservée à certaines strates ou à certaines fonctions. Il faut que la diversité aille jusqu'au top management. Et nous, on a un COMEX qui est paritaire avec des gens qui viennent de la diversité, et ça marche très bien parce que ces personnes-là ont des expériences très différentes. Mais c'est aussi une façon de se questionner sur comment on travaille ensemble. C'est-à-dire que nous, notre problématique, c'est pas simplement comment on accroît cette diversité, mais comment on fait que cette diversité soit une chance et pas simplement un inconvénient ou un facteur de risque. Et donc là, il y a pas mal de choses qui sont faites. On a par exemple une semaine, nous, autour du 9 décembre, qui s'appelle la semaine du travail ensemble, une semaine dans laquelle on parle de racisme, d'antisémitisme, de haine anti-LGBT, mais aussi de laïcité. Hein. Le 9 décembre n'est pas choisi au hasard. Et donc ce moment-là, ce temps fort-là, permet aussi d'irriguer tout au long de l'année les unités avec des formations, des capsules vidéo. Moi, je me déplace beaucoup sur le terrain. J'ai beaucoup de débats avec mes collègues. On essaye de ne pas être uniquement dans le théorique ou dans le déclamatoire ou dans la grande charte. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'être très, très concret dans nos approches de ces questions-là.
Merci. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes grands enjeux, ceux du groupe, sur ces sujets-là, et peut-être la feuille de route qui est la tienne. Tu es arrivé récemment au sein de la RATP. Est-ce que tu peux la partager avec nous?
Alors d'abord, sur les grands enjeux, ils sont assez multiples. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord, historiquement, une mission importante qui est celle de faire respecter la laïcité et la neutralité dans l'entreprise, parce qu'on a eu affaire à quelques débordements les années passées. Et donc, il faut vraiment tenir cette ligne parce qu'elle est importante. Et moi, je considère que cette neutralité religieuse, elle nous protège. Elle nous protège parce qu'elle permet vraiment de réserver au milieu professionnel des comportements qui doivent être professionnels. Et elle permet de réserver la foi au domaine privé. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir l'expliquer, le réexpliquer, de faire de la pédagogie, expliquer que ce n'est pas discriminatoire, expliquer que c'est aussi notre tradition française et que c'est une tradition qui ne vient pas par hasard. C'est-à-dire que c'est une tradition qui s'inscrit aussi dans un ensemble, une marche de sécularisation, faire en sorte que ces comportements qui peuvent être extrémistes, hein, l'extrémisme religieux, évidemment, ça existe, c'est des choses qui ont fait des dégâts, quoi, hein. La Saint-Barthélemy, ça a existé, des guerres civiles religieuses, ça a existé en France. Et donc, voilà, il y a cet enjeu-là qui est très prégnant. J'ai un deuxième enjeu qui est celui, qui est d'ailleurs pas spécifique à la RATP, hein, mais qui est celui de la lutte contre tout ce qui est harcèlement sexuel et agissement sexiste. On a, nous, un environnement qui peut être parfois très machiste ou très viriliste, avec du travail de nuit, avec des personnes parfois peu qualifiées. Et c'est vrai que cette moindre tolérance qu'a toute la société aujourd'hui, hein, sur ces thématiques-là, eh bien, on le retrouve chez nous, avec des pratiques RH qui évoluent lentement, avec des mentalités qui sont parfois très profondément ancrées, hein, sur ces questions-là. Et donc, du coup, on a ce travail-là, qui est un enjeu important et qui est évidemment en lien avec le sujet diversité en général, parce que c'est par ce respect des normes-là, d'un environnement de travail très bienveillant, qu'on fait aussi passer des messages, par exemple, sur la haine anti-LGBT, qu'on fait passer des pratiques différentes sur l'accueil des personnes trans. C'est aussi via ce discours-là sur la bienveillance qu'on peut évoquer le racisme. Donc voilà, nous, on essaye de ne pas trop compartimenter, mais de relier tout ça au fait qu'on doit travailler ensemble. Et quand on a une très grande entreprise comme la RATP, avec des enjeux de transport public qui sont très complexes, très lourds, hein, parce qu'une ligne comme le RER A, je crois que c'est 1,4 million de voyageurs par jour, eh bien, on est vraiment tous avec une petite fonction, un rôle très particulier. Il faut tout ce qu'on puisse le jouer.
C'est quoi aujourd'hui être une personne trans et travailler à l'RATP, être chauffeur d'une rame de métro lorsqu'on est une personne trans? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça se passe bien aujourd'hui ou est-ce que il faut que ça se passe mieux demain? On en est où?
Alors oui, ça existe tout à fait. D'ailleurs, je n'ai pas donné de nom ou de ligne de métro en particulier, mais oui, ça existe. C'est des personnes aussi qui se signalent à mon service, que j'ai reçu, avec lesquelles on dialogue. Il y a des choses qui se passent plutôt bien. Je crois que c'est tout ce qui est accueil d'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, la transphobie, elle a quand même bien reculé et qu'il y a justement des managers, des RH, des collègues qui ont envie de bien faire, qui ont envie de bien accueillir ces personnes-là. Mais parfois, il y a aussi beaucoup de maladresses. Alors, il y a des maladresses, j'allais dire technocratiques, hein. C'est le comité d'entreprise qui va envoyer un courrier avec la mauvaise civilité, le mauvais genre. Ça peut être des maladresses, des managers qui, sur un tableau, je sais pas quoi, d'effectifs, va pas mettre la bonne civilité parce que l'état civil n'a pas encore été changé. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'on améliore avec les intéressés, d'ailleurs, nous, on travaille beaucoup avec elles, et qu'on puisse traduire, nous, dans nos process. C'est-à-dire que dans une énorme entreprise comme la nôtre, tout est souvent très processé, c'est dur à dire, mais je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et à partir du moment où on a des normes, des fiches pratiques, des choses qui indiquent la feuille de route, la marche à suivre, eh bien, ça va beaucoup mieux parce que eh bien, ça fixe un cadre, et si le cadre n'est pas suivi, eh bien, on peut recadrer ou sanctionner. Et donc ça, c'est extrêmement important, et donc je pense que sur ces questions de transphobie ou d'accueil des personnes trans ou de bienveillance, je pense qu'on va vite progresser sur ces questions-là.
Tu parlais de changer les process. Est-ce que ça passe également par des formations spécifiques des managers? Est-ce que lorsque un manager arrive dans le groupe et prend ses fonctions, est-ce qu'il a un parcours particulier sur ces thématiques-là au sein de la RATP?
Alors, il y a un parcours d'accueil des nouveaux entrants qui est très complet avec beaucoup de choses différentes, parce que ces fonctions managériales, on apprend aussi à être manager, on apprend aussi à diriger une équipe, à impulser le changement, on apprend aussi à à rendre des comptes, on apprend à connaître cette entreprise qui est énorme. Mais oui, cette thématique de la bienveillance et de la nécessité d'inclure tous les collaborateurs, c'est quelque chose qui figure dans le package global. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout couvrir, d'où des petites capsules vidéo qui sont très bien faites. C'est souvent des 6 fois 5 minutes que les agents peuvent aller suivre à un moment où ils ont un peu plus de temps, entre midi et 2 ou chez eux le soir sur leur tablette, et qui permettent de toucher tout un tas de sujets. Je pense à la laïcité, je pense à l'homophobie, mais je pense à des sujets comme la conformité, c'est-à-dire tout ce qui est lutte anticorruption. Donc on a un parcours, on a un bagage qui est assez complet en la matière, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser. Moi, je pense qu'on peut toujours progresser. Mais moi, je suis assez frappé, venant du secteur public, venant de l'État, de voir à quel point ce groupe est assez innovant et assez actif en matière de formation. Il y a une offre de formation qui est très, 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 très conséquente, pour le dire très clairement.
Très bien. Alors, tu parles toi-même de ton expérience passée. On va faire un petit aparté sur ce sujet-là. Et peut-être, est-ce que tu peux partager avec nous ton sentiment? Tu as été préfet délégué interministériel de la DILCRA. Donc, tu as un bon baromètre, finalement, de tous ces sujets d'inclusion et de discrimination en France. Est-ce que tu peux nous donner ton baromètre à toi, ta météo à toi de la diversité et l'inclusion en France?
Alors c'est un peu difficile de répondre à ta question parce que il y a des baromètres très différents, il y a des sondages d'opinion, il y a des statistiques de l'INSEE, de l'INED. C'est assez difficile de se faire une idée précise malgré tout ça. Donc j'ai plutôt parlé de ressenti ou d'intuition. Moi, mon ressenti, c'est qu'au fond, on progresse très vite sur ces questions de diversité et d'inclusion. Je pense que si on fait une photographie aujourd'hui des COMEX ou des conseils d'administration ou des CODIR, je pense que la photographie serait très différente de celle qu'on aurait eue il y a 40 ans. Voilà. Je pense que le règne de l'homme blanc, quinca en costume gris, triste, ingénieur, c'est un peu ce modèle monocolore qui est en train de vaciller avec des gens qui ont des parcours très différents. Enfin, en tout cas, nous, c'est le cas à la RATP. Hein. Et quand je dis différent, c'est différent en termes d'origine, différent en termes de géographie, différent en termes de parcours professionnel, d'école, sensibilité aussi. Et moi, c'est comme ça que je pense qu'une entreprise est plus forte. Et donc, je pense que notre pays et notre secteur privé s'est beaucoup ouvert à ces questions-là, qu'il en est aujourd'hui bien conscient. Mais malgré tout, cette plus forte visibilité de la diversité, ça crée aussi des phénomènes négatifs de rejet, de réaction, avec des replis sur soi, des rejets extrémistes, des suprémacistes blancs qu'on peut voir aussi s'organiser. Donc je pense qu'il faut rester très vigilant. Je pense qu'il ne faut pas se dire que la bataille est gagnée, qu'on a passé un seuil et qu'un effet cliqué automatique ferait en sorte que tout irait mieux aujourd'hui. Je pense au contraire qu'il faut rester très vigilant sur ces questions-là et surtout qu'on aide aussi ces personnes issues de la diversité qui parfois se retrouvent à supporter une charge symbolique qui est très forte. Et je pense qu'on a aussi besoin quelque part de banaliser ce sujet-là en expliquant que ce sont des agents ou des managers comme les autres et qui vont réussir ou qui vont échouer et qui vont échouer. Et s'ils échouent, c'est pas grave, ils réussiront autre chose. Mais je pense qu'il faut pas non plus en faire forcément toujours des porte-étendards avec cette fonction-là qui peut être difficile à vivre, hein, parce que du coup, ça rajoute encore une tonne de pression pour les intéressés.
Est-ce que tu penses que la crise sanitaire et économique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est difficile pour tout le monde, elle l'est certainement davantage pour ces minorités dont tu parlais à l'instant. Comment est-ce que, selon toi, on va retrouver cette diversité en sortie de crise? On voit le bout du tunnel. On va la retrouver dans quel état, cette diversité? Et finalement, qu'est-ce que cette crise a eu comme impact? Je parle avec le télétravail, avec du coup la distanciation qu'on a eue sociale avec les autres. Qu'est-ce que cette crise a eu comme impact sur cette diversité?
Alors d'abord, cette crise, elle nous a touchés. Hein, donc c'est évidemment pas quelque chose qu'il faut considérer comme un segment ou comme un particularisme. Malgré tout, moi j'ai quand même une intuition, c'est que ceux qui risquent d'en souffrir un peu plus, c'est peut-être ceux qui ont moins de réseau. C'est-à-dire que je ne raisonne pas forcément en termes d'origine, de race ou de religion. C'est, je pense, notamment chez les jeunes, que ceux qui ont le moins de réseau parce que leurs parents ne sont pas dans des sphères d'entreprise ou d'administration ou ont accès à un environnement peut-être plus privilégié, je pense que c'est ceux-là d'abord qui vont être plutôt fragilisés. Fragilisés dans l'accès à l'emploi, fragilisés aussi dans des accès à des stages, et ça c'est extrêmement important, fragilisés aussi dans des jobs d'été. Et donc moi mon inquiétude elle est plutôt là, elle est plutôt sur des jeunes qui n'auraient pas tous ces avantages qu'on peut trouver dans certains milieux professionnels ou certains milieux culturels. Donc c'est plutôt ça mon inquiétude, c'est comment on va leur permettre, comment eux-mêmes vont arriver dans la sphère professionnelle, alors même qu'il y a un certain nombre de SAS ou de passerelles qui ont été un peu mises à l'arrêt pendant cette crise-là.
Et concrètement, par exemple, à la RATP, qu'est-ce qui est, à ta connaissance, mis en place pour justement essayer d'aller chercher ce qu'on pourrait appeler les décrocheurs ou en tout cas les moins favorisés par le système et le fonctionnement actuel. Comment est-ce que la RATP peut aller rattraper, chercher ces jeunes-là?
Alors, ces jeunes-là, d'abord, on a tout un ensemble de programmes à vocation sociale. Je pense à ce que fait la Fondation RATP en matière d'emploi, en matière de discrimination. Nous, de notre côté, en tant que manager ou RH, on a maintenu évidemment l'accueil des jeunes stagiaires à la RATP. Et surtout, on a maintenu, alors là, c'est vraiment de l'interne, on n'est pas sur l'externe, tout ce qui est programme talent, promotion interne. C'est-à-dire qu'on considère que dans nos équipes, il y a des gens de grands talents qui ont beaucoup de richesses. Et donc, on cherche vraiment à les mettre sur des tremplins et à leur donner toutes les capacités pour réussir demain. Et donc, il y a du mentorat pour les jeunes femmes. Ça existe avec un coaching très individualisé. Mais il y a aussi des systèmes internes je reprends l'expression de talent, mais de petites cohortes, de petites équipes, de petites pousses prometteuses qu'on va essayer, nous, de faire grandir en interne.
Très bien. Dernière question, Frédéric, c'est un petit rituel sur ce podcast. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs pour rendre leur entreprise plus inclusive? Ils n'ont peut-être pas la chance d'être à la RATP, qui est une entreprise qui a pris ce sujet à bras-le-corps depuis déjà quelques années. Quels sont tes tips à toi pour eux?
Moi, je pense que la clé du succès sur cette question, c'est d'abord considérer que la diversité est une richesse et que cette diversité, en fait, va nous renforcer. Moi, dans toutes mes expériences professionnelles, j'ai toujours cherché à recruter des gens qui ne me ressemblaient pas, mais qui ne me ressemblaient pas au sens très, très large. C'est-à-dire que ce n'est pas une question, là encore, ou religieuse, ou de genre, ou d'orientation sexuelle. J'ai vraiment toujours cherché à avoir des gens qui avaient fait des écoles différentes de la mienne, des gens qui venaient d'autres pays ou d'autres régions que la mienne, parce qu'en fait, j'ai toujours considéré que ces gens-là m'apportaient quelque chose et en fait renforçaient mon équipe. Et comment ces personnes pouvaient nous renforcer? C'est simplement parce qu'elles nous permettaient aussi d'anticiper davantage sur les risques, les faiblesses, et qu'avec un écosystème professionnel beaucoup plus vaste et beaucoup plus divers, on permet finalement de détecter plus de choses. On détecte plus de risques, et on peut faire jouer davantage de cordes de rappel et de réflexes professionnels différents. Et donc moi, je me suis toujours attaché à faire ça. Et donc, il ne faut pas considérer la diversité comme la promotion d'une minorité ou d'une petite communauté. Il faut considérer qu'en fait, cette question de la diversité, c'est quelque chose qui doit irriguer l'entreprise parce qu'en fait, on va la rendre plus forte. Donc voilà, c'est plutôt un petit coup de main philosophique là que je donne, ou un petit clin d'œil que j'envoie au manager, plutôt qu'un truc qui serait clé en main, quoi. Il y a pas de méthode, c'est plus un état d'esprit, voilà. Et je pense qu'il faut dépasser parfois des visions que certains milieux réactionnaires peuvent avoir en disant allez, ça y est, c'est je sais pas, le lobby LGBT qui a pris le contrôle de telle entreprise ou tel média, c'est des personnes de telle origine qui sont forcément aux manettes dans tel secteur. Non, moi je pense qu'il faut dépasser tout ça et considérer qu'au fond, plus une entreprise est diverse et plus elle sera forte.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric.
Merci beaucoup Adrien.
Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous donnera quelques clés pour agir vous-même au sein de votre entreprise afin de la rendre plus inclusive. N'oubliez pas, la diversité est une force.